Libre Radio, la radio qui te regarde droit dans les yeux, te parle direct dans l'oreille et qui réalimente des bouts de cerveau. www.libradio.org.
Qu'on organise pour commémorer le 150e anniversaire du premier congrès de la Première Internationale. Vous savez le programme qu'il y a, donc il y a cette balade aujourd'hui, jeudi prochain il y aura un débat à l'Université ouvrière avec une partie historique avec Marianne Henkel qui est là et Marc Villemier qui est notre historien de référence et ensuite une partie sur la sur l'actualité de l'international avec Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, et Julia Vuceva, qui est une militante russe des droits humains. On a voulu faire cette promenade de mémoire pour resituer aussi l'international dans Genève, dans la ville de Genève et dans la mémoire ouvrière de cette ville. On n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui rappellent la Première Internationale, parce que l'endroit où elle a eu lieu, c'était à la rue de la Terrassière, mais on ne sait pas très exactement où, parce que la brasserie a changé 3 fois de place, et même Marc Villemier se contredit dans son livre, donc c'est un peu compliqué. Et puis c'était un peu loin, parce que ça fait vraiment très loin. Et il y a d'autres endroits où on aurait pu aller, mais qui étaient un peu loin. Là, on va faire un tour qui va... On va avoir 2-3 tons de cimetière et puis après on va descendre sur la jonction qui est le quartier ouvrier. Devant chacune des étapes qui sont sur le petit que je vous ai donné, quelqu'un prendra la parole, quelqu'un du comité d'organisation. Je le dirai quand il sera là. Je voulais remercier. On aura un conseiller administratif de la ville de Genève, notre collègue camarade Rémi Pagani. Et je voulais remercier la ville qui nous a fait une subvention presque inattendue et assez conséquente. Alors on va commencer par la tombe qui est le plus près d'ici, qui est celle d'Émile Nicolet. C'est juste par là. On va s'arrêter d'abord devant cette tombe. J'ai fait la promenade, elle dure exactement une heure dans pas de secrétaire syndical à la retraite. Mais comme il y a des interventions, il faut pas trop traîner, quoi. Voilà, alors Émile Nicolet, il n'est pas très connu, mais même s'il a une rue à Genève, c'est un secrétaire syndical qui est né à Vevey. Il était issu d'une famille très modeste. À 13 ans, il a fait un apprentissage de monteur de boîte de montres. Il a travaillé à la Chaux-de-Fonds, puis à Genève, de 1916 à 1900. Donc il est né en 1879. Il est né en 1879, de 1916 à 1921, il a été responsable du secrétariat ouvrier pour la Suisse romande, et de 1913 à 1920, secrétaire général de la Fédération du commerce des transports et de l'alimentation pour Genève, la FCTA, qui est devenue après, qui a été absorbée par UNIA il y a 10 ans, 12 ans.
Absorbée.
Fusion.
Qui a fusionné. Et il a créé des tas de syndicats pendant qu'il était à cette charge, des syndicats de base, une cinquantaine, dit-on. Il a pris une part active à la grève générale de 1918 à Genève. Il a été député au Grand Conseil en 1907, puis conseiller administratif de Plainpalais. Plainpalais était une commune à part à l'époque, donc c'était, on dit, conseiller administratif comme il y en a maintenant en ville de Genève. Il a été président du Parti Socialiste de 1917 à sa mort. Il a été élu au Conseil National en 1919. Il est décédé de la tuberculose en 1921, donc il était jeune, il avait moins de 50 ans. Et il y avait plus de 5000 personnes qui ont suivi son enterrement, ce qui montre la popularité de Émile Nicolet. Alors, il y avait évidemment, quand j'ai vu cette tombe, j'ai fraché là-dessus, parce que je pense que c'est le rêve de tout militant syndic d'avoir, pour ne pas passer, mais d'avoir la classe ouvrière de Genève reconnaissante, ça pose son nom. Et il y avait donc une rue à son nom, qui est juste à côté du dépôt des TPG. Voilà.
Est-ce qu'on sait quelque chose sur l'artiste ou à Vaudois, son terrain ?
Non, je ne sais pas.
Et un commentaire sur la symbolique.
Bouvier. Donc là, visiblement, c'est Bouvier 1934. Et la symbolique, c'est la symbolique des... Je me demande si d'ailleurs la FCTA n'avait pas ça. Il y a une roue dentée, il y a un marteau, une pioche.
Ouais, c'est le logo de l'époque de la FCTA.
De la FCTA, c'est ça. Ouais. Et il y a sa femme qui est là aussi.
Et il y a un carquois.
Non, c'est des faisceaux.
Des faisceaux pour les éditeurs. Oui, mais les faisceaux, ça montre l'ambiguïté du
bien, on va. Qu'est-ce qu'on fait On va voir Fuchs quand même. Bon, alors on va voir Fuchs. On n'avait pas prévu. Ça fait un petit détour.
Alors voilà la tombe de Bertoni. Bertoni, c'était l'anarchiste type de Genève qui, de 1900 à 1946, a publié un journal, ou un double journal, le réveil anarchiste, Il risveglio anarchico, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il était typographe de métier, il faisait ça en dehors des heures, et en plus il allait à peu près tous les week-ends faire des conférences dans toute la Suisse, surtout auprès de groupes italiens, il était tessinois d'origine. Et il a fait beaucoup de prisons. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle les anarchistes genevois ont peu participé au mouvement de grève en 1918, parce que Bertoni était en prison à l'époque, et donc ils étaient occupés à d'autres choses. Il est mort en janvier 1947. Il avait publié le dernier numéro de son journal en 1946, donc entre 1940 ou fin 1939, les journaux anarchistes et communistes sont interdits par le Conseil fédéral, et il continue à publier clandestinement. Le Réveil, c'est un grand journal, et puis pendant des années, ça devient une petite brochure, éditée quelque part en Suisse, sans nom, mais diffusée autant que faire se pouvait. Et quand l'interdiction est tombée, il a continué à publier le Réveil sous ce format-là. À sa mort en janvier 1947, il y avait, malgré la réputation qu'il avait, une délégation du Conseil d'État genevois et un tas de gens qui étaient là. Il a été incinéré, bien entendu, et la pierre a été posée en 1948. J'ai essayé de trouver qui l'avait faite, parce qu'il y avait pas mal, parmi les marbriers, les tailleurs de pierre pour le cimetière, il y avait beaucoup de libre-penseurs italiens d'origine. Donc j'ai tâché de retrouver des traces, mais j'ai pas encore réussi. Soit la pierre, soit le bronze. Et la légende qui dit « Inlassable combattant de la liberté ». Ça, c'est joli. Ça ressemble pas beaucoup, mais... pendant pas mal d'années, les anarchistes genevois se retrouvaient le matin du 1er mai, ici. Alors moi, j'ai pas connu ça dans les années 60. Je pense qu'ils étaient déjà un peu trop vieux, ou ils en avaient un peu assez. Et donc la photo que vous voyez sur le dépliant, c'est probablement à l'inauguration de la pierre. Alors je remercie Georges Tissot d'être venu la repérer il y a quelque temps, parce qu'elle était entièrement couverte de lierre. Je pouvais à peine la distinguer. Donc je suis venu avec mon test sécateur il y a 15 jours pour essayer de nettoyer un peu ça, pour la mettre en valeur.
Donc c'est le bus de Johann Philipp Becker, le grand spécialiste, c'est Marc Vieumier, qui vous parlerait mieux que moi de ce personnage. Malheureusement, il n'est pas là. En 2008, il a fait un petit article qui rappelle qui est Becker, surtout qui parle de l'installation de cette tombe et de ce monument en 1889. Et en fait, c'est là-dessus que je me suis appuyé pour vous donner les quelques informations que je vais vous donner. Cet article avait été fait en 2008, ou cette notice avait été faite en 2008, parce que l'AMO avait écrit au conseil administratif...
Qu'est-ce que c'est l'AMO ?
L'association pour... qu'est-ce que c'est l'AMO ? L'association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, qui a été fondée en 1980 pour s'occuper... pour rassembler et conserver des archives du mouvement ouvrier et pour en stimuler l'étude. C'est une association qui existe maintenant depuis 35 ans et qui publie chaque année un cahier d'histoire. Et donc,
voilà, qui est une des organisatrices de la promenade d'aujourd'hui. Et donc l'AMO a écrit au conseil administratif pour demander que la tombe soit entretenue, surtout que l'arbre qui le menaçait à ce moment-là, les branches, risquaient de faire tomber le monument. Donc suite à cette intervention, je crois que quelques travaux ont été faits, des travaux minimaux, mais on voit que le risque est toujours là, la tombe penche. Donc dans le cadre de cette commémoration du premier congrès de l'international, on s'est dit qu'il serait important de refaire une demande au conseil administratif pour qu'il intervienne pour sauvegarder cette tombe. Donc en 1889, le buste a été érigé suite à une souscription internationale parce que Johann Philipp Becker, qui était un Allemand, né en 1809, actif d'abord dans le mouvement républicain en Allemagne dans les années 1830, puis du fait de ses activités, il a dû fuir l'Allemagne, il est venu en Suisse, à Vienne d'abord, en 1836. Il a été actif en Suisse et il a aussi été actif dans le mouvement progressiste suisse avec les radicaux des années 1840 dans le canton de Berne, et il obtient la nationalité suisse en 1846, ce qui, j'imagine, lui offre aussi une protection pour ses activités futures, parce que après il est resté il a beaucoup bougé, il est intervenu encore en Allemagne dans les années 1848-49 pour soutenir le mouvement républicain en Allemagne, puis il est aussi allé en Italie pour soutenir Garibaldi, il est retourné dans les années 1860, et puis après, au début des années 1860, il s'est définitivement fixé en Suisse, à Genève. Et il a été l'artisan, ou un des principaux artisans de la première internationale, du développement de la première internationale en Suisse. Et il était très actif sur le plan international aussi, ce qui fait qu'effectivement, au moment de sa mort, en 1886, de nombreux socialistes venant d'autres pays, dont Bernstein, notamment, était présent à son enterrement. Et puis, trois ans après, en 1889, ce monument, ce buste, ont pu être installés suite à une souscription internationale pour le financer. Et sur le buste, il y a effectivement, sur le socle, il y a des inscriptions en sept langues qu'il faudrait qu'on essaye de décrypter. Là aussi, on est un peu au début du travail. On tâchera de faire ce travail d'identification des inscriptions, de traduction, pour le cahier d'histoire du mouvement ouvrier qui paraîtra l'année prochaine et dans lequel on va faire une petite notice sur ce but.
Alors maintenant, faudra aller un tout petit peu vite, on va passer le bois de la Bâtie. Juste en sortant, ça n'a strictement rien à voir avec l'international, mais en passant sur cette allée-là, il y a la tombe, personne ne sait qu'elle est là, du peintre Ferdinand Hodler, une grande fresque qui ne doit pas être de lui, je pense. Que donc il faut qu'on passe là, on passera un petit peu à gauche. Pour...
T'as vu la Vendreuil?
La Vendreuil?
Ouais, mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus.
C'est marqué renversé, toujours à contre-courant. Renversé.co, toujours à contre-courant.
Bon, là c'est pas tellement spectaculaire, mais on est au seul endroit. On aurait pu faire le tour, mais c'est un peu long. Ça va être long de toute façon. Donc là, il y a le siège des l'ancien siège des TPG. C'est le bâtiment blanc qui est ici. Et si on s'arrête ici, c'est parce qu'il y a eu en 1902 une grève des TPG. Je ne sais pas si Charles veut dire deux, trois mots sur cette grève ou bien tu...
Oui, en fait, cette grève, elle est symbolique parce que d'abord, c'est une grève générale au niveau cantonal. C'est une grève qui déroule en deux phases extrêmement différentes. La première phase, c'est une grève de catégorie des tramelots qui sont des traminots, les termes varient, qui se révolte contre la prise de pouvoir d'un propriétaire américain et qui lutte contre, enfin qui lutte pour leurs conditions de travail, puis pour la défense de 7 d'entre eux qui sont licenciés. Et puis elle devient générale en solidarité avec les traminots qui ont été licenciés dans un second temps. C'est un gros moment de l'histoire ouvrière de Genève. Ici, je dirais que ça symbolise la première phase, mais la seconde phase, elle est symbolisée par le musée Erhard, parce qu'il y a une célèbre photo où tout le personnel de la CGT en grève est pris en photo sur les escaliers. Ça, c'est une photo un peu emblématique. Ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que c'est une grève où la population genevoise est solidaire et est avec les grévistes dans une dynamique qu'on a par exemple retrouvée au Tessin lors de la Berlin Zone, lors des grèves des officines, parce que il y avait cette dimension genevoise qui fait contraste avec la grève qui aura lieu l'année suivante, qui elle sera une grève des maçons. C'est le moment du renouvellement du contrat, du tarif des maçons, et là il y a une grève très très longue de maçons qui sont tous pour la plupart français ou italiens, enfin majoritairement italiens, et puis cette grève là elle va durer, elle va s'épuiser. Elle m'a intéressé parce que c'est un des rares dossiers de police qui a été conservé. Comme ça j'ai pu comprendre combien les policiers genevois ne comprenaient pas l'italien, c'est-à-dire ce qui faisait qu'ils faisaient des interprétations. Enfin, c'est un dossier qui est assez sympa à travailler. Mais surtout, là, il n'y a pas de solidarité du mouvement ouvrier local. Il y a un isolement manifeste. Et cette grève-là se termine de manière un peu solennelle par un départ. Alors, c'est par une interdiction solennelle de la place, qui évidemment ne va pas marcher. Et paradoxalement, ça se termine par une manif. Et la manif, elle va à la gare parce que tous ces ouvriers, ils partent. Et donc, il y a un contraste très fort entre les deux. Donc, les deux grèves à une année près. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre l'une si on ne connaît pas l'autre. C'est bien la dynamique entre les deux qui fait comprendre ce qu'était l'histoire ouvrière de ce tout début du XXe siècle.
Et sauf erreur, à l'époque, la CGT était une compagnie à capitaux sud-africains, en tout cas.
Américains.
Au début, je crois qu'il y a eu des sud-africains, et ce serait intéressant de savoir pourquoi, à Genève, en Suisse, pays qui à l'époque était à l'avant-garde de l'électromécanique, on avait besoin de capitaux non seulement américains, mais si je me rappelle bien ce que j'ai lu dans les ouvrages officiels de la compagnie, sud-africain pour développer.
En tout cas, c'est une dimension qui est aussi intéressante de connaître pour bien relativiser l'émergence soi-disant très récente du phénomène dit de la mondialisation ou de la globalisation. C'est évidemment son intensité qui se modifie, mais il y a les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, ils ont des expressions dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, dans toute l'histoire du capitalisme.
Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que maintenant la présidente du conseil d'administration ou la directrice, je ne sais pas quoi, est une américaine des TPG. Vient d'être nommée.
Oui, donc, alors juste
comme on est là, en passant, là, en descendant du Donabati, bon, d'une part là on voit cette cheminée qui était l'ancienne usine Kugler. C'est une usine qui a été rachetée par Similor, donc qui n'est plus ici. Et il y a toute une série, on ne les voit pas, mais il y avait toute une série d'usines. C'est vraiment un quartier ouvrier type ici, à la jonction. Il y avait Gardi, qui a disparu quasiment. Il y avait un peu plus loin l'UGDO, où c'est l'usine maintenant. C'était l'usine de Genevoise de décrocissage qui a disparu, qui avait été rachetée par Metalor, si je me souviens bien. Il y a encore beaucoup plus loin, on passera tout à l'heure. L'usine Verisport qui produisait des chaussures, une usine Van Leysen qui est près de la rue du Stand qui produisait des cycles, qui ont disparu, et d'autres ont été déplacés. Il y avait par là en bas la nationale.
Il faut parler dans notre direction.
Oui, c'est juste, mais je regarde ce que je regarde ce que je dis. Il y avait la nationale qui était une usine qui est maintenant à Vernier, Patek Philippe qui elle existe encore en plan les watts. Et puis la CIP, qu'on passera à peu près devant, un peu plus loin, qui a quasiment disparu, enfin qui existe toujours du côté de Vernier, de la Zimeza.
Et puis Beyler.
Et puis Beyler aussi, oui, tiens, Beyler qui a disparu aussi. Voilà. Je me recommande encore que bon, il paraît qu'il y en a qui ont été voir les animaux, mais il faut aller un petit peu plus vite, sinon.
Une des maisons où Lénine a habité à Genève, il habitait ailleurs aussi. Là où il y a les parties protestantes maintenant, encore un lieu historique. Bon, cette plaque a été apposée en 1967 sous l'égide de André Chavanne, conseiller d'État à l'instruction publique, et de Sven Stéline Michaud, professeur à l'université. Ça a évidemment suscité beaucoup de débats dans le journal de Genève, parce qu'il ne trouvait pas quand même que la ville de Genève sponsorise un bout de bronze sur un bout de marbre. C'était pas très décent. Mais bon, la plaque a été apposée, et pendant longtemps, il y avait... Alors, dans mon souvenir, c'était des officiels soviétiques qui venaient, parce qu'on les reconnaissait, ils avaient toujours des pantalons trop courts, puis des manches de veston aussi un peu trop courtes, puis c'était en noir. Ils venaient s'incliner devant la plaque.
C'est lui qui les a déployés.
Alors, hier, au colloque, Sandro Rossetti disait, c'était la partie du travail qui venait régulièrement. Je sais pas si le parti du travail est venu régulièrement. Puis il disait, puis les anards leur versaient des seaux d'eau dessus. Alors moi, ce que je me rappelle, mais j'ai pas de date non plus. Non, il y a eu un squat au premier étage. Alors je sais pas si c'était toute la maison ou au premier étage, mais en tout cas, il y avait Ivar qui habitait là.
Ah oui.
Donc il faudrait peut-être lui demander, mais il a aussi des mémoires un peu flottantes. Et un jour, quand il y avait ces officiels soviétiques, on avait déployé les drapeaux noirs pour se rappeler Magno et Kronstadt. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait joué à la mer Royaume sur la tête des officiels. Le détail, excusez-moi du détail, mais dans cet appartement du premier étage, il y avait une cuvette de chiottes en porcelaine avec des petites fleurs dedans. On rêvait que ce soit là que Lénine se soit assis une certaine année auparavant, 80 ans auparavant. C'est ça, c'était dans les années 80, donc il y avait, quand l'Union soviétique existait encore. D'ailleurs, mon... Ah voilà, c'est un petit signe. Non, justement, on ne sait pas. Enfin, peut-être qu'on sait dans les registres. Ah, Luc, elle est là. Dans les registres d'habitants, peut-être qu'on peut trouver chez qui il habitait et où il était. Si on...
Il y a un livre sur Vidé Lénine à Genève. Il y a un livre.
Oui, de Pianzola.
Ouais, là, il est écrit, mais j'ai rappelé. Non. Dans ses livres, il a tout ça.
Voilà.
Okay. Vous constaterez que, bon, on va parler maintenant, mais que Lénine, c'était juste pas à cette époque-là, mais il aurait pu être dans l'explosion de l'usine à gaz. C'était juste derrière. Ça, c'est
le monde aurait changé.
C'est Charles qui va nous en parler. Oui, le monde aurait changé.
Vas-y, Charles. Et alors, vous avez vous trouvez ici à la rue des Gazomètres, qui est très connue des enseignants, parce que ce bâtiment, c'est le service éducation média et que tous les prêts de matériel audiovisuel se font là. Le nom est connu, mais pourquoi ça s'appelle Gazomètre, c'est beaucoup moins connu. Il y a des bâtiments qui sont en train de surgir, de s'ériger sur le site d'Artamis. Et il y a un chemin un peu sinueux qui va bientôt être inauguré, qui s'appellera chemin du 23 août. Alors les deux choses sont liées, et je ne sais pas s'il y aura plus d'indications dans le chemin que juste le 23 août. Et il se trouve que le 23 août 1909, l'usine à gaz qui était sise sur ce quartier d'Artamis a explosé. Elle a explosé et ça a fait ça a fait 13 morts et près d'une centaine de blessés, ce qui devrait vous rappeler quelque chose. C'est-à-dire que le hasard a fait qu'on a le même nombre de victimes pour deux événements traumatiques qui concernent le monde ouvrier, mais qui nous interrogent sur est-ce qu'il y a une différence entre monde ouvrier et mouvement ouvrier. Parce qu'évidemment, je suis très heureux qu'on soit amené à voir tout à l'heure un monument rendant hommage aux victimes de l'armée en 1932. Mais ici, ces 13 morts-là, ils ont été oubliés. Et dans la mémoire collective, c'est très peu connu. Je ne sais pas si combien d'entre vous connaissez cette histoire d'usine à gaz qui a explosé, mais en général, c'est relativement peu connu. Alors, d'un point de vue historique, ce qui est intéressant et significatif, c'est le fait que, bon, d'abord, si c'est complètement oublié, c'est qu'on n'est pas dans un geste militant, ce sont des victimes du travail. D'ailleurs, je parle de mémoire d'un article que j'avais fait dans un numéro des cahiers d'histoire du mouvement ouvrier qui était consacré à cette thématique des victimes de travail en 2004. Et quand on va voir les sources, quand on va voir les journaux de l'époque, et en particulier le journal socialiste de l'époque, il est extrêmement frappant de voir que ce qui fait scandale, c'est qu'on ait laissé une usine aussi dangereuse dans une zone qui était devenue urbaine. Et donc le scandale va être résolu par la construction d'une autre usine à gaz dans le site suivant des services industriels, puisque là ça a été le site des services industriels, et le site suivant, celui que vous avez à Irs, il est construit sur ce qui a aussi été une usine à gaz, qui elle, n'a pas connu d'incident. Et ce qui est très frappant, c'est que dans la presse socialiste, y compris, mais aussi évidemment dans la presse bourgeoise, on se plaint vertement du fait qu'il y ait eu des victimes qui étaient des passants, mais la mort d'ouvriers semble être une fatalité. Et donc la décision qui est prise très très rapidement, c'est de reconstruire ailleurs. Mais on reconstruit ailleurs pour pas qu'on soit parmi la population, mais il y a très peu de discussions, le thème de la sécurité du travail à ce moment-là n'est pas du tout abordé, et la mort au travail est associée à une espèce de fatalité liée à ce type de production et n'est pas interrogée. Et bon, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être connu, parce que ça reste évidemment, comme vous le savez, d'actualité, la mort blanche. C'est encore un phénomène contemporain. Et dans le fond, cette question de la fatalité, elle ressurgit souvent de ci, de là, dans les propos, dans les discours, dans les consciences. Et je pense que ce type d'exemple devrait nous aider à refuser ce paradigme de la fatalité. Et puis bien sûr, la question de la mémoire se pose aussi pour ce type de mort. Ça pose une vraie question, qui est une vraie question historiographique selon moi, c'est-à-dire histoire et mémoire du mouvement ouvrier, c'est pas tout à fait la même chose que histoire et mémoire du monde ouvrier, et il faudrait pouvoir faire les deux, il faudrait pouvoir travailler les interactions entre l'un et l'autre. Mais ça ne va pas de soi, parce que le monde ouvrier a produit beaucoup moins de traces que le mouvement ouvrier. Et donc, c'est en tout cas un signe qu'on a encore beaucoup de travail dans le domaine de l'histoire sociale de ce point de vue-là. Voilà.
Juste pour préciser que la photo qui a été sur le dépliant, c'est un faux absolu. C'est une carte postale qui avait été... C'est pas nous qui l'a fait. C'est une carte postale qui avait été éditée, mais où ils avaient rajouté la fumée et tout ça. Donc c'est le quartier de la Jonction vu depuis le bois de la Bâtille. Mais la fumée, elle n'est pas d'origine. Enfin, elle est d'origine sur la carte postale qui a été éditée, mais il y a deux, trois photos comme ça.
Peut-être aussi, puisqu'on a commencé par un cimetière, il y en a un autre, tout près de l'explosion. Ah oui, et les morts ont été dérangés parce qu'il a fallu refaire beaucoup de tombes après cette explosion.
Alors maintenant, on va aller tout au bout de la plaine de Pointe-à-l'Aire. Il a été racheté 160 000 francs, donc le double quand même, par un type dont on s'est aperçu après que c'était un sous-marin de Cardinal Mermillot qui a racheté ça pour y mettre une église catholique. C'est pour ça qu'on a l'église catholique. Le bâtiment était un peu rallongé après. Et c'était juste avant le Kulturkampf. C'était juste avant. C'était deux semaines avant, quelque chose comme ça. Et au Kulturkampf, donc le gouvernement a pris les églises catholiques ou catholiques pour les donner soit à l'église catholique chrétienne, soit pour, je pense qu'ils auraient fait les autres. Et donc les catholiques ont pu continuer à se réunir ici, mais ils avaient aussi des chapelles clandestines aux eaux vives, d'ailleurs tout près de, peut-être sur un des lieux où il y a eu la brasserie Treiber. On a alors de l'autre côté, où il y a cette maison est à peu près dans le même état qu'elle était à l'époque. C'était la... Maintenant c'est Pouilly, donc, c'était la brasserie Antwerp. Alors la brasserie Antwerp, c'était un lieu de réunion
J'ai mis une photo de l'intérieur de la brasserie, mais j'ai aussi, on a aussi une photo un peu. On a aussi une photo de l'extérieur, qui, ça n'a pas tellement changé. Il y avait un théâtre, il y avait, etc. Et dans la brasserie Anvers, il y a eu souvent des réunions, des meetings. Il y a eu là les premiers cours de l'Université ouvrière de Genève, pas seulement là, il y en avait un peu partout. Et il y a eu notamment un meeting avec, sur l'anniversaire de la Commune de Paris, où on est sûr, en tout cas, qu'il y avait Benito Mussolini qui était là, et où il est très probable, mais ce n'est pas tout à fait sûr, qu'il y avait aussi Lénine qui était là, dans la même salle. C'est un mythe. C'est sûr. C'est toi qui l'as continué à le propager ou bien ? D'accord. Alors, ben voilà, on aura appelé.
Ils étaient là tous les deux, même pas en même temps.
Oui, ils se sont connus, mais.
Ça fait beaucoup d'inspirer Enzo De Felice.
Mussolini, je vous rappelle, était d'extrême gauche là, à l'époque. Et il y a très accessoirement aussi, au premier étage, c'est là qu'il y a eu le premier siège de la Fédération des syndicats chrétiens de Genève en 1920. Il y a eu aussi, Marianne disait que Louise Michel a tenu des meetings ici. Donc Louise Michel, c'était la fameuse proscrite de la Commune de Paris, exilée
Mais il y avait aussi il y avait des salles de réunion, parce qu'en tout cas, on voit dans les rapports de police qu'ils disent à la réunion de Anvers qu'il y avait, comme disait le chat, qu'il disait tout à l'heure. Il y avait des Italiens, donc le flic n'a rien compris de ce qu'il disait, mais il donnait le nom.
Voilà. Bon, on va aller maintenant, alors on va traverser la plaine.
Il y a eu une éphémère maison du peuple, qui a été le lieu finalement de la vraie instauration des cours de l'Université populaire par le mouvement ouvrier, parce que d'autres sont allés.
Hein?
Oui, mais par le mouvement ouvrier, je voulais dire. Oui, celui qui a été initiateur de cette maison du peuple, c'est d'ailleurs ruiné, c'est Adrien Vix, qui était médecin, qui était député socialiste. Et c'est pas plus mal d'en parler ici, puisque il se trouve qu'il a une rue depuis peu vers le garage Renault, une rue Adrien Vix, qui malheureusement ne contient que la seule adresse de Rolex, c'est quand même un peu paradoxal. Sur cette rue, les plaques minéralogiques disent médecin philanthrope. Et y compris sur le site de l'État de Genève, cet été encore, il n'avait pris de la notice du dictionnaire historique suisse que la première partie, qui disait qu'il avait été pendant 2 ans député radical avec Georges Pavon, parce qu'en effet, il fait partie de ces députés du mouvement ouvrier qui ont été accueillis dans le cadre d'un système majoritaire par le parti radical pour faire être dans un premier temps membre du Grand Conseil, mais ensuite le système proportionnel qui s'est instauré, le Parti Socialiste s'est instauré, il a eu sa propre délégation Adrien Vix a été l'un des fers de lance de la députation socialiste genevoise avant la Première Guerre mondiale, sauf que ça avait été oublié sur le site, ça a été corrigé depuis. Et donc, bon, c'est un peu paradoxal de voir la notion de justice sociale avec la radicale, ça a une raison d'être, mais c'est devenu évidemment quelque chose de terriblement anachronique quand on sait l'histoire, quand on sait que notamment les radicaux, au moment des 150 ans de leur révolution de 1846, n'ont rien voulu faire, c'est le GSSA qui a dû les obliger, enfin je ne me souviens plus, enfin, il y avait eu une manifestation sur la place du Mola et du coup ils se sont dépêchés de vite mettre une plaque commémorative. Et puis il faut peut-être ce rappel, ce refus de l'origine progressiste du Parti radical par les radicaux d'aujourd'hui, elle a donné lieu à une anecdote qui m'a toujours fait rire. C'est qu'au moment du centenaire, au Grand Conseil, il a été question de célébrer la constitution genevoise consécutive à l'entrée de Genève dans la Confédération, enfin à l'adaptation des institutions politiques suite à à l'émergence de la Confédération moderne en 1848. Donc on voulait fêter la constitution, la nouvelle constitution genevoise, mais on voulait pas fêter, enfin la droite ne voulait pas fêter la Révolution. Et là, Jean-Vincent a fait une déclaration extrêmement drôle où il a dit « Ah bon, vous voulez fêter la Constitution sans fêter la Révolution qui l'a rendue possible ?» Je trouve quand même piquant de constater aujourd'hui dans cette salle que la majorité protestante de ce Grand Conseil vient de se convertir au dogme de l'Immaculée Conception.
La maison du peuple, elle était où ?
Là, va vers le... À l'angle, rue du Bouvelis, c'est, on va passer devant, mais c'est après le bâtiment Géachi.
On va passer devant tout à l'heure.
Voilà, on est donc ici sur les lieux mêmes de la fusillade du 9 novembre 1932. La troupe était juste derrière l'église. En ce moment même, il y a un canapé en gazon vert à l'endroit exact où se trouvaient les soldats. Alors d'abord, petite redescription de l'époque et des raisons de la fusillade. Donc on est dans une période de crise importante. Il y a 8000 chômeurs à Genève, dont les trois quarts environ ne sont pas indemnisés. Situation sociale très difficile. Puis on est aussi à la période de la montée du fascisme. Bon, Mussolini est au pouvoir depuis 10 ans. Portugal devient une dictature avec l'arrivée au pouvoir de Salazar. Et puis en Allemagne, en juillet, le parti nazi fait 37,4% des voix aux élections législatives. Et ici à Genève, en 32, naît un parti fasciste, l'Union nationale, qui se livre à des provocations permanentes. Les cibles, ce sont les leaders socialistes, ce sont les juifs, ce sont les étrangers et ce sont les confédérés. À l'époque, on n'aimait pas les confédérés quand on était d'extrême droite à Genève. Et ce parti organise une mise en accusation publique ici à la salle communale de Plainpalais de deux leaders socialistes, Léon Nicole et Jacques Piquet. La gauche décide d'organiser une contre-manifestation qui a lieu ici dans le boulevard du Pont d'Arc, ici à côté, et le Conseil d'État appelle l'armée, qui d'abord reste en caserne, et puis comme pendant la manifestation, le barrage qui était à l'entrée de la rue de Carouge, ici le long du boulevard du Pont d'Arc, le barrage cède, c'était simplement une chaîne tendue entre deux maisons, et au moment où le barrage cède, le Conseil d'État appelle l'armée à la rescousse. L'armée était dans sa caserne là-bas. L'armée qui était dans sa caserne là-bas arrive, une compagnie, simplement une centaine d'hommes, arrive à l'arrière de la manifestation, ici où il y avait environ 5000 manifestants, pour aller renforcer le barrage. Alors, comme ils sont à l'arrière de la manif, ils se divisent en deux colonnes qui remontent le long des trottoirs, ils sont bousculés par les manifestants et ils refluent, ils se replient et vont s'adosser contre le mur du Palais des Expositions, où ils sont suivis par environ 100 à 150 personnes, dont des manifestants, mais dont aussi des passants, et paniqués, adossés. C'était des recrues totalement inexpérimentées, pas préparées du tout à une telle tâche. Et paniqués, la troupe tire dans le tas, arrose la place. Les balles ont été retrouvées depuis cette maison jusqu'à la dernière là-bas en face, et laisse 13 morts. Et 65 blessés. Parmi les 13 morts, évidemment quelques manifestants, mais aussi beaucoup de passants et beaucoup de curieux. Pratiquement tous, ce sont les rapports d'autopsie, ont été atteints dans le dos, à mi-corps. Et c'est en mémoire, en souvenir de cette tragédie, de ces victimes qui ont été victimes des provocations fascistes, victimes de la répression anti-ouvrière, victimes du militarisme, que ce monument a été érigé ici à l'occasion du 50e anniversaire de la fusillade en 1982. Le comité qui organisait la manifestation, les manifestations du 50e, ont demandé à la ville de Genève de financer l'érection d'un monument. La ville de Genève, à cette époque-là,
a refusé encore, avec la préoccupation, ont-ils dit, le conseil administratif, de ne pas avoir à assumer les troubles que l'érection d'un tel monument pourrait provoquer. Et devant le refus du conseil administratif, il a été décidé d'ériger un monument spontané. C'est les militants du syndicat des travailleurs de la construction, la FOBB à l'époque, qui se sont chargés de trouver la pierre, de l'amener ici et de la déposer au bout de la plaine de Plainpalais, où elle est toujours. Elle est devenue un monument pérenne qui rappelle cette tragédie, qui rappelle cette fusillade avec le slogan « Plus jamais ça ». Et il est régulièrement, enfin, je pense que la plupart d'entre vous le savent, là, il y a des manifestations régulières, parce que chaque année, au 9 novembre, il y a une manifestation. Et chaque année, au 1er mai aussi, il y a le matin une manifestation ici ou juste en face vers le mouvement des brigadistes. Voilà pourquoi cette pierre se trouve ici.
Non, j'y étais pas. Non, c'est juste pour vous dire et vous informer que le 7 octobre prochain, UNIA, en collaboration avec l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, on organise une soirée au cours de laquelle sera projeté le film documentaire de Temps présent réalisé en 1977, enfin un des épisodes, La Fusillade. C'était La Fusillade. En présence de Claude Tracinta, qui avait réalisé ce magnifique reportage de Temps présent, et de Jean Batou, historien qui a écrit aussi un bouquin sur les événements de 32. Voilà, je vais envoyer le flyer à Georges qui se chargera de vous distribuer.
On le mettra sur le site du collège, enfin, sur le site du collège du travail, par exemple.
Donc voilà, je voulais dire, entre ancien syndicaliste, je suis également président de l'AMPI. Et là. Voilà, merci, si vous pouvez.
C'est un ancien président de la CGAS.
En plus.
Comme deux anciens présidents. Comme moi. Trois anciens.
On a beaucoup d'anciens. Non, juste une précision importante. La manifestation se tiendra dans les locaux du GAM. Que nous connaissons.
Suriname.
Suriname, près de la.
Dans la salle.
C'est pas au Suriname, c'est au chemin Suriname.
Dans la salle Daniel Marco, donc.
Alors là, il faut qu'on traverse intelligemment parce que.
Non, il y a quelqu'un qui
va poser une question, si je peux. Qu'est-ce que c'est cette pièce sur le côté?
Alors, c'est une pièce un peu rapportée, ça s'appelle la lanterne de la promesse. C'est une lanterne qui a été posée par le comité qui actuellement s'occupe des commémorations du 9 novembre. Elle est allumée de temps en temps et la flamme est maintenue allumée, une espèce de promesse du plus jamais ça. Voilà le sens.
Et puis il y a la clé aussi.
Alors ouais, il y a trois clés. Bon, actuellement, j'ai constaté qu'on pouvait l'ouvrir sans clé, mais il y a une clé qui a été déposée au Conseil d'État, une clé qui a été déposée au Conseil administratif de la ville de Genève et une clé qui est restée en main du comité qui organise les commémorations du 9 novembre.
Et la rumeur dit qu'il y a un pêcheur qui a un double.
Ouais,
ouais. Allez voir dedans.
Merci.
On se trouve ici devant un monument de Manuel Torres qui a été érigé en 2000 à la suite d'une longue négociation avec la ville de Genève. Et la grande différence, parce qu'on peut faire un parallèle évidemment avec le bâtiment qui se trouve un petit peu en face, la grande différence ici, c'est que c'est pas un monument qui a été déposé la nuit par des syndicalistes. C'est un monument qui a un caractère officiel, c'est-à-dire que c'est la municipalité de Genève qui, à un moment donné, a souhaité rendre hommage, alors officiellement aux brigadistes de suisses qui avaient participé à la guerre d'Espagne. On a eu une discussion hier et il a été fait remarquer à juste titre que l'ensemble des volontaires Suisses qui sont allés dans la guerre d'Espagne, qu'on ait aussi des militants et des miliciens qui n'étaient pas forcément inscrits dans le concept, dans le contexte des brigades internationales. Alors, 2000, pourquoi 2000 ? En gros, c'est une mémoire, c'est une mémoire qui est en phase de réveil un peu partout, et en particulier en Espagne, à ce moment-là, parce qu'au lendemain des 40 ans de dictature, cette mémoire-là a été limitée, a été confinée à un relatif silence, en tout cas officiel. Et puis, je crois que le plus important, puisqu'on est en Suisse, ce monument s'inscrit dans une dynamique qui a commencé en 1996, parce que ça a été une année de grand hommage international à tous ceux qui avaient participé, tous les militants qui étaient venus de l'extérieur de l'Espagne pour participer à la résistance contre le putsch franquiste, contre le putsch nationaliste. Et en 1996, il y a eu un voyage avec les brigadistes qui restaient, les volontaires suisses qui restaient. Sur les 800 qu'il y a eu en tout, il en restait plus beaucoup déjà. Je crois que c'est aussi important de vraiment inscrire cette démarche mémorielle dans une perspective, dans un moment particulier qui est celui de la disparition annoncée des témoins. Et on peut faire des parallèles avec d'autres situations mémorielles. Quand il y a cette disparition annoncée, il y a la question de la transmission se pose d'autant plus, et on constate un certain nombre de manifestations de la mémoire se développer à ce moment-là. Alors maintenant, il y a eu un comité qui, pendant un certain temps, composé des syndicats, des représentants de la communauté espagnole, des immigrés, qui a fait pression pendant plusieurs années pour obtenir ce monument. Un des éléments clés a été le fait qu'une conseillère administrative socialiste de la ville de Genève, Jacqueline Burland, était elle-même fille de brigadiste. Et je pense que c'est un élément qui est important dans la dynamique qui a pu se créer. Et puis d'autre part, c'est aussi à inscrire dans un contexte où cette municipalité genevoise était une municipalité à majorité de gauche. Je pense que c'est un élément extrêmement important, parce qu'en face, si ça n'a jamais été officiel, c'est aussi parce que la droite genevoise n'a jamais accepté le moindre travail de mémoire à ce propos. On a simplement eu une déclaration de Charles Baer, une fois, solennel, sur reconnaissant les responsabilités du gouvernement de l'époque, mais c'était parce qu'à un moment donné, il y a eu pendant 4 ans une majorité de centre-gauche au Conseil d'État, et ça s'est arrêté là. Il y a cette déclaration, elle est importante, mais ça s'est arrêté là. Ici, on a vraiment un caractère officiel. Et alors, petite anecdote, quand on a senti dans le comité qu'on allait aboutir à un monument, la question se posait, mais on le met où ? Et je me souviens avoir réagi de manière assez critique, parce qu'il y avait plusieurs endroits possibles, dont celui-là. Et puis celui-là, bon, vous voyez bien qu'on est, chaque fois qu'on est ici, on doit faire attention, on doit se faire entendre, on est en plein trafic, etc. Ce qui est aussi le cas en face. Et j'avais réagi en disant, mais on ne va pas faire un ghetto de la mémoire ouvrière, de la mémoire progressiste, toujours au même endroit, il faudrait que ça parsème toute la ville. Et je me suis pris un coup dans l'épaule. Il y a quelqu'un qui m'a dit de me taire en italien. Et ce quelqu'un, c'était Eolo Morenzoni, qui était dans le comité, donc un des derniers brigadistes survivants, ce qui s'explique par le fait qu'en fait, il était parti en Espagne à l'insu de tout le monde, en cachant son âge. Il avait 16 ans et demi quand il est parti. Donc c'était un des plus jeunes, et donc c'était un des derniers. Et il se trouve qu'il habite là. Il habitait là. Et qu'il m'a dit, tu t'arrêtes avec tes histoires de ghetto, de machin, on s'en fiche, moi je vais il m'a fait comprendre que ça lui faisait grandement plaisir que ce monument s'installe ici, Et je dois dire que de son vivant, il a, tous les matins, il venait, il déplaçait les vélomoteurs, les scooters qui étaient là, enfin voilà. Et il était vraiment très, très attaché, très, très content de cette proximité. Voilà, donc ça, c'est la petite histoire cachée qu'il y a derrière l'histoire de ce monument que je voulais aussi vous transmettre. Voilà. Oui, on m'avait aussi demandé de vous dire que par rapport à l'étape précédente, vous a, si vous tournez la tête là, vous voyez une image, vous voyez ce fameux banc vert là, et voilà, bah, c'est l'endroit exact du drame du 9 novembre.
Non, je serai bref, mais le Collège du Travail est né en 1978. Il a été créé par, sous la surveillance de plusieurs personnes compétentes, par Lucien Tronchet et ses camarades, dans l'idée de préserver la mémoire du mouvement ouvrier. Et en fait, bon, on est en train de travailler un peu avec Patrick, puisque dans 2018, le Collège du Travail aura 40 ans, reconstituer un peu cette histoire de manière un peu précise à travers des documents, etc. On n'est qu'au début de ce travail, donc on a plus de questions que vraiment de compréhension de ce qui s'est passé. Mais je crois qu'on peut quand même dire une ou deux choses intéressantes. La première, c'est que il me semble qu'on a affaire avec Tronchet et ses camarades à des militants anarcho-syndicalistes qui ont la conscience d'avoir mené des combats importants et qui veulent garder la trace de ces combats, et qui veulent la garder pour l'édification des générations futures, pour transmettre au fond ce qu'ils ont fait et ce qui a été réussi dans ce qu'ils ont fait, et qui est principalement, me semble-t-il, leur recours très déterminé et très astucieux à ce qu'ils appelaient l'action directe. L'action directe, c'est mettre les pieds dans le plat, sans circonvolution et circonlocution, c'est dire, et le premier exemple de ça, qui a bien été retracé dans le livre d'Alexandre Elzig sur la Ligue d'Action du Bâtiment, c'est de dire par exemple, en 1928, il y a une première convention collective du bâtiment qui est signée grâce aux luttes antérieures du mouvement ouvrier, et Tronchet et compagnie vont dire: nous, on est là pour faire respecter cette convention collective. Fort de la légitimité que leur donne cette convention collective, ils vont dire, mais maintenant, on l'a faite, il faut la prendre au sérieux. Et donc, les gens qui vont travailler sur les chantiers le week-end, on va aller casser le travail qu'ils font sur les chantiers pour que, petit à petit, on comprenne que ce n'est pas juste un petit papier, c'est vraiment important. Donc, ils avaient cette, je crois, très forte conscience de la valeur de ce qu'ils avaient fait et de la nécessité de transmettre ces modalités de lutte, convaincus qu'elles étaient sans doute de toutes les époques. Alors, ils ont appelé ça le Collège du Travail. Et ça nous fait beaucoup réfléchir parce que c'est la mise ensemble de deux notions qui sont... Voilà, collège, alors collège, on va au collège pour faire des études, ou bien on travaille dans le monde du travail. Et en fait, au départ, et dans les statuts, c'est présent, c'est collège du travail aussi parce qu'il y a une volonté de formation des ouvriers. Et je pense que cette voie-là, elle a fait long feu sous l'angle qu'on pourrait appeler pédagogique, si vous voulez, ou de la formation des adultes. Mais elle n'a pas fait long feu sous l'angle du projet de transmission d'une conscience et d'un savoir-faire des luttes. Au contraire. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que donc, après le dépôt par Tronchet d'un certain nombre de choses qui sont des documents qui illustrent au fond ces combats, lorsque Tronchet décède, il y a la part de ses camarades survivants, la volonté de continuer à témoigner, mais sous un autre mode, qui est le mode du souvenir, de raconter au fond ce qu'on a fait, c'est-à-dire transmettre l'histoire à travers les souvenirs oraux. Et ça a été très important pour ces militants anarcho-syndicalistes de faire ce travail-là, et il a été mené par le Collège du Travail à ses débuts,
de façon très intéressante par Christiane Wiest, qui a travaillé avec ses militants et qui en a tiré de beaux livres sur la Genève de cette époque et les luttes de cette époque. On a récemment procédé à la numérisation de ces interviews, parce qu'évidemment, elles existent sur des supports extrêmement fragiles, et on a pensé que c'était vraiment un capital historique ou mémoriel. Moi, j'ai toujours beaucoup d'hésitation dans l'utilisation de ces mots. Un capital historique important, et donc Patrick Audercet, qui est actuellement coordinateur du Collège du Travail, et qui fait l'essentiel du travail, moi je fais un petit peu des discours, il a organisé tout ce travail de numérisation, et je pense que c'est très important. Donc, transmission, raconter ce qu'on a fait, avoir des documents, trancher à portée des documents, exister et raconter ce qu'on a fait, avec cette idée sans doute que la transmission orale, elle est plus directe, elle est plus compréhensible par les gens. Alors ça, je pense que c'est une deuxième composante du Collège du Travail qui illustre peut-être aussi, là je parle aux historiens du mouvement ouvrier qui sont présents, non pas une défiance vis-à-vis de l'histoire du mouvement ouvrier, mais peut-être ce sentiment qu'il faut donner un statut aux acteurs du mouvement ouvrier. Il ne faut pas simplement que l'histoire du mouvement ouvrier soit un grand récit dans lequel personne ne se reconnaît parce que c'est juste l'histoire de combat pour le pouvoir, pour faire court. Hein. Cette idée donc que l'histoire du mouvement ouvrier, c'est aussi une histoire qui devrait faire place, je me replace dans la perspective de ces ouvriers qui racontent leur histoire, à leur subjectivité de combattants qui se sont battus pour la dignité ouvrière en pratiquant l'action directe. Mais le Collège du Travail, ça fait bientôt 40 ans qu'il existe, et il a vécu des phases différentes, et notamment lorsque ces témoins disparaissent, c'est d'autres générations qui prennent le relais, et elles prennent le relais autrement, elles le reprennent sous l'angle de l'écriture de l'histoire, puisque les témoins ne sont plus là, l'histoire doit continuer à être racontée, l'histoire doit toujours être retravaillée, reprise à la lumière des questions nouvelles que le présent suscite. Et donc, le Collège du Travail a fait, je crois, parce que je tirais la liste de tout ce qu'on a publié, a fait un gros travail d'écriture de l'histoire du mouvement ouvrier, notamment beaucoup grâce à Marc Lieumier. On a fait un très beau livre de recueil de ses articles, ou bien ce livre sur la Ligue d'action du bâtiment, ou d'autres encore qui sont vraiment de l'histoire du mouvement ouvrier, dont on peut faire l'histoire aussi pour voir que les questions qu'on se pose évoluent avec le temps et correspondent. Il y a la nécessité d'inventer des réponses nouvelles aussi, toujours. Troisième composante qu'on retrouve quand on parcourt juste la liste des publications du Collège du Travail, et allez voir le site, on l'a refait il y a maintenant bientôt 2 ans, et je trouve qu'il est vraiment intéressant. Cette idée, alors, toujours dans la continuation de l'histoire orale, on a fait aussi, ça c'était à l'époque de Jacqueline Berenstein et de Alda de Giorgi, une grande exposition à l'annexe de Conche du musée d'ethnographie sur la vie quotidienne ouvrière à Genève. Je la cite maintenant parce que c'est un autre indice de cette volonté de raconter une histoire qui ne soit pas qu'une histoire trop intellectuelle, mais qui passe aussi par le témoignage des objets. Parce qu'on sait bien, par exemple, les technologies ménagères, pour parler comme ça, ont beaucoup évolué au fil du temps. Et c'est des objets mémoriels forts parce qu'ils renvoient à un travail qu'on a fait concrètement et dont on a pu être plus ou moins libéré par l'évolution des techniques. Donc, il reste cette composante. On a fait un livre sur Pierre Schmitt, où c'est aussi une interview. Et c'est un livre, il y a toujours cette trace mémorielle, il y a la trace historique dont je parle, et puis il y a une troisième composante qui est présente aussi, cette idée qu'il y a dans le monde du travail des problèmes d'actualité qu'il incombe aussi au Collège du Travail d'affronter, en essayant de mobiliser par rapport à cette actualité ce qu'on peut savoir de l'histoire du mouvement ouvrier. Et par exemple, il y a eu, à l'époque du retour du chômage fort à Genève, un livre qui s'est appelé et c'était la suite d'un colloque, je crois, emploi sécurité zéro, où tout à coup, on parle, et je reviens à Collège du Travail, on parle du travail et plus seulement du mouvement ouvrier, où on parle d'une situation que le mouvement ouvrier rencontre. Et de nos jours, nous faisons, je crois, un gros travail pour mettre en rapport toujours le passé et le présent, mais beaucoup à travers, en mobilisant au fond nos ressources archivistiques, qui sont d'une part des documents, mais qui sont aussi du son, des enregistrements de son. Et donc on essaye de continuer on s'inscrit dans cette tradition de Tronchet, on s'inscrit dans cet héritage de combativité pour la dignité ouvrière au nom d'un certain nombre de valeurs telles que l'égalité, la justice sociale, etc. Et on essaie de réinventer les moyens de ce combat et de rejoindre des publics auxquels la mémoire de ces combats doit être transmise. Et là, je crois, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de voir qu'il y a passablement de gens jeunes qui sont présents. Et je crois que c'est très très important de réussir à atteindre des générations différentes par rapport à cette histoire pour qu'elle ne devienne pas une histoire ancienne morte. Alors pour conclure, parce que je crois que les tables, les assiettes sont bientôt prêtes, je dirais que il y a un gros enjeu sur la... On a été une archive qui a reçu des archives celle de Tronchet au départ. On a aussi reçu d'autres archives au fil du temps. Mais les syndicats, par exemple, ont décidé de confier leurs archives aux archives d'État du canton de Genève. Et donc, on a une première interrogation sur l'avenir du Collège du Travail, c'est de dire, sommes-nous une archive ouverte? C'est-à-dire, avons-nous à vouloir encore recevoir des choses pour continuer à construire cet héritage historique dont nous sommes les détenteurs ou les dépositaires momentanés, ou bien est-ce que nous sommes une archive fermée? Et si nous sommes une archive ouverte, de qui avons-nous, en tant que nous inscrivons dans l'histoire du mouvement ouvrier, à recueillir aujourd'hui les archives et les traces? Si vous avez la réponse à cette question, on achète. C'est une question en fait très complexe, elle a l'air évidente. Vous êtes les héritiers de l'histoire du mouvement ouvrier, donc vous avez à... C'est pas si simple que ça. Et puis, dernière chose, je crois que ça concerne le rapport entre l'écriture de l'histoire et les documents historiques, et ça concerne l'histoire de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de produire... Je parle aux historiens du mouvement ouvrier, je n'en suis pas, donc je suis juste un historien de l'éducation, je suis à l'aise pour leur poser la question. Est-ce que vous êtes capable de produire une histoire du mouvement ouvrier qui parle aujourd'hui aux acteurs qui sont les héritiers des acteurs anciens de ce mouvement ouvrier? Et quelle est la nature de cette histoire qui peut vraiment parler aux gens et leur donner les clés pour... mener les combats qu'il y a à mener? Parce qu'effectivement, et je termine par là, je crois que pour moi, la grande chance que j'ai eue à être à présider le Collège du Travail depuis une vingtaine d'années, c'est que c'est le lieu d'une forme d'histoire qui, tout en étant rigoureuse, je crois, je parle devant mes collègues, est une histoire qui reste l'histoire d'une militance, l'histoire d'une lutte, l'histoire d'un combat, l'histoire d'acteurs sociaux situé, et je crois que à ce titre c'est une histoire importante, et c'est très important de savoir avec qui nous allons rester en contact aujourd'hui pour s'inscrire dans cette continuation, dans cette histoire-là, notamment à l'ère de l'émigration, qui n'est pas nouvelle, qu'on voit bien présente dans l'histoire du mouvement ouvrier genevois et dans les archives du Collège du Travail, mais c'est une question ouverte de savoir qui sont aujourd'hui les travailleurs dans notre société, quelles traces, qui s'occupe de conserver quelles traces pour écrire quelle histoire de ces travailleurs-là. Voilà, bon appétit.
Attends, je vais juste conclure avant de passer la parole deux secondes. Donc, merci Charles. Je signale que comme contribution concrète à la lutte du mouvement ouvrier, c'est le Collège du Travail qui offre l'apéro qu'on va avoir maintenant.
Attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air, là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, il faudra pas faire les étonner.
Libre Radio, www.libreradio.org, la web radio du peuple.